Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 627 du podcast Touchdown Actuel. Mathé, très heureux de vous retrouver pour le premier débrief de la saison NFL 2023. Les trois plus grosses affiches, on repart sur la même formule que l'an dernier. Les trois grosses affiches débriefées le mardi matin sur toutes les plateformes, mercredi matin, tout le reste de la semaine. À mes côtés pour commencer, Victor Roulier, bonjour.
Et bonjour Alain, bonjour à tous.
Victor, très beau premier dimanche, plein de surprises.
Oui.
Ça s'est bien passé pour toi. Est-ce que tu as apprécié, est-ce que tu t'es bien remis dans le bain?
Écoute, des semaines 1, c'est toujours assez incroyable parce que on a des certitudes qui volent en éclats. On a des équipes qui surprennent et qui, comme on disait, tous les ans, hein, y a des petites surprises et finalement, au fil de la saison, les choses se rééquilibrent un peu. Mais du coup, vraiment, oui, c'est juste le plaisir de retrouver du football, de réentendre le son de linemen offensifs qui se rendent dans l'art, tu vois. Non, c'est vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça tombe au bon moment.
Bon, ça s'est bien passé pour toi, ça s'est beaucoup moins bien passé pour certaines des équipes dont on va parler aujourd'hui. On commence les débriefs, alors pas de suspense, hein. On est sur une énorme surprise, mais surtout sur trois gros cartons. On ne va pas vous raconter des fins de match incroyables, des touchdowns de dernière seconde, c'est vraiment pas le programme du jour, mais vous allez voir, il y a quand même des choses très intéressantes qui se sont passées. On commence ces trois affiches avec les Browns contre les Bengals, 24 pour Cleveland, pardon, 3 pour Cincinnati seulement. Trois petits points. J'avoue que je n'ai pas vu ce match en direct, donc inutile de dire, Victor, que quand j'ai vu le score, ma première réaction, évidemment, a été « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et quand j'ai vu les stats, alors là, c'était encore pire, 10 punts pour les Bengals, seulement 142 yards en attaque, seulement 6 first down. Ils n'ont même pas atteint les 20 derniers yards adverses une seule fois. Qu'est-ce qui s'est passé, Victor, pour que Cincinnati déroute à ce point? Je vais y arriver.
Écoute, ils ont même fait que 82 yards à la passe. Écoute, c'est un match assez bizarre parce que j'étais devant en direct puisque c'était le match que je résumais pour TDA. Et en fait, finalement, t'avais pas une impression de domination terrible ou t'avais pas une impression d'une équipe qui multiplie les erreurs ou quoi. Juste, ils étaient surclassés joueur par joueur. C'est-à-dire, les cornerbacks étaient un peu meilleurs que les receveurs. Les linebackers étaient un peu meilleurs que le running back. La ligne défensive était un peu meilleure que la ligne offensive. Et du coup, en fait, à chaque action, les Bengals étaient sans solution. Et clairement, on peut dire bravo quand même au coaching staff et à la défense des Browns, parce que c'est même pas un joueur qui a explosé, c'est pas un Myles Garrett qui a fait le match de sa vie. Non, c'est... Chaque joueur qui a contribué à son niveau, c'est presque impossible d'en sortir un du groupe. C'est juste une escouade qui a réalisé le match parfait. Et ils ont annihilé cette équipe des Bengals qui était sans imagination, sans solution. Alors après, est-ce que Burrow était limité par sa blessure? Ça, on le saura pas. Peut-être, sûrement même.
Il a pas semblé, en tout cas, limité.
Il a pas semblé, il a juste semblé sans solution, en fait. Mmh. Et pour moi, c'est juste vraiment une démonstration de la défense des Browns.
Mais donc, quand tu dis c'est une démonstration de la défense des Browns, est-ce qu'on dit, bah, bon, dans ce cas-là, on exonère Cincinnati, c'est un mauvais match, ils ont été très bien contenus, parce que le but, c'est quand même de trouver des solutions, surtout quand tu prétends être une des meilleures attaques de la NFL. C'est quand même Jamar Chase, Joe Mixon, T. Higgins. À quel moment, eux, ont fauté quand même dans la recherche de solutions? Qu'est-ce qu'ils auraient pu mieux faire?
Bah, T. Higgins, il a fait 0 yard, donc il aurait pu mieux faire en captant des ballons.
Oui, il a été ciblé 8 fois quand même.
8 fois, ouais. Bon, après, au moins 6 sur 8 qui n'étaient pas attrapables. Mais T. Higgins a été particulièrement mauvais. Il n'a absolument jamais réussi à faire une différence. Il n'y a que Jamar Chase qui a essayé un peu de se débattre. Mais encore une fois, je pense que globalement, oui, ils ont été annihilés et ils n'ont pas trouvé les solutions. Et comme tu dis, on ne peut pas les exonérer parce que c'est censé être une top 5 équipe de la Ligue et que tu ne peux pas rendre une telle fiche statistique. C'est impossible. Et tous les joueurs doivent être incriminés.
Ouais, clairement, là, pour l'instant, ça c'est très mal. Les joueurs, le coach aussi?
Le coach aussi, bien sûr. Ça va avec. Ça va avec. Je vais te dire, la seule chose que les Bengals ont bien fait, c'est défendre. Hein, parce que la défense, à la fin de la fin, elle prend 24 points. Enfin, quand on attaque, rend perpétuellement le ballon au bout de 3 actions, une défense, ça s'essouffle, quoi. C'est pas non plus ils peuvent rien y faire, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il y a un moment c'était trop.
On rappelle que c'est un match où il a plu quand même sur toute la rencontre. Est-ce que c'est une circonstance un peu atténuante?
Ouais, il a plu bien plus dans le New York Dallas ou dans le Eagles Patriots, et les équipes ont réussi à passer la balle, hein. Honnêtement, franchement, je suis pas sûr.
Bon, j'essayais d'être sympa. La défense de Cleveland, tu le disais, on va rester sur cette opposition. Jim Schwartz est leur nouveau coordinateur défensif. Ça a l'air de changer beaucoup de choses. Là, on a parlé des coachs. Jim Schwartz, il arrive. Il n'y a pas énormément de changements dans l'effectif. Tu le disais, Miles Garrett, etc. On a un Grand Delpit, par exemple, qui se met à plaquer dans tous les sens, à défendre correctement en couverture. Il y a aussi là une part de coaching, peut-être à Cleveland, qui a tourné avec l'arrivée de Jim Schwartz.
Bah, Jim Schwartz, on peut penser ce qu'on veut de lui en tant que head coach. Mais en tant que coordinateur, il a toujours fait le boulot. Hein. Donc là, il prouve encore une fois qu'il est un très bon coordinateur défensif et qu'il sait tirer le meilleur de son équipe, qui est une équipe qui n'a pas forcément 5 genre stars sur lesquels s'appuyer, mais qui a un effectif très complet avec beaucoup de profondeur. Ils ont fait beaucoup de rotations, en fait, finalement, et du coup, les joueurs sont quand même restés tous très frais. Et je pense que la profondeur d'effectif qu'ils ont en défense, ça peut les aider au fil de la saison.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils n'ont pas provoqué le moindre ballon perdu, ils n'ont pas arraché de ballon, ils ont juste été étouffants, quoi.
C'est ça, c'est à l'ancienne, c'est three and out, pas de ballon perdu, rien, juste on est meilleur action après action.
Ça, c'est quand même une immense bonne nouvelle pour... Je suis en train de regarder les drives des Bengals, donc punt, fin de la première mi-temps, donc ils n'ont vraiment fait que punter en première mi-temps. Field goal manqué, punt, échec sur quatrième tentative, punt, fin du match. C'est vraiment une galère absolue, mais vraiment, la prestation défensive est à saluer. Ça, c'est hyper rassurant pour Cleveland et pour la suite. Mais c'est pas forcément le truc. Alors, encore une fois, c'est un progrès notable, c'est de la progression interne, mais c'est pas le truc qu'on observait le plus. Évidemment, ce qu'on observait, c'était aussi de Sean Watson. 16 sur 29, 154 yards, un touchdown, une interception, il marque un touchdown au sol, il a gagné 45 yards en 5 courses. Est-ce qu'il a été meilleur que l'an dernier? On met la barre là, parce que clairement, on n'est pas revenu au Deshaun Watson de Houston.
Il a fait un match de game manager. Alors, il a fait une interception absolument horrible. L'interception, elle est absolument horrible. Mais si on met de côté cette action-là, le reste du match est correct. Il a été game manager et il a pris les yards là où il pouvait les prendre. Mais encore une fois, il a plus profité de la fatigue, puisque le premier touchdown, il intervient à quelques secondes de la mi-temps. Il a plus profité de la fatigue de la défense adverse que vraiment forcer la décision par lui-même. Donc je dirais que non, ça reste encore un match moyen pour Deshaun Watson.
encore une fois, je suis pas toujours fan de dire par rapport au contrat, etc. Mais bon, il faut quand même le dire, vu qu'il a les plus grosses garanties de l'histoire de la NFL, il est pas non plus censé jouer comme un joueur moyen. Donc, combien de temps on va, tu vois, laisser de dire oui, mais il se remet en marche. Oui, mais là, il a joué la fin de saison dernière. Il a, tu vois, Brock Purdy, il a joué autant que lui la saison dernière. Il est plus efficace sur le début d'année, tu vois. Donc,
mais là, c'est sûr qu'on était plus proche de Jared Goff dans le style de jeu, si tu veux, que du Deshaun Watson d'avant blessure.
Ouais, c'est un peu bon. En tout cas, on continue d'attendre l'éventuel retour de Sean Watson, mais à un moment, il faudra voir si on doit encore attendre quelque chose. Bon, là, évidemment, il y a encore de la marge. Nick Chubb l'a bien aidé parce que ça reste, c'est ça qui est impressionnant, c'est que t'as le quarterback le plus payé de l'histoire, mais en même temps, t'as une équipe qui joue 40 courses pour 29 passes. Alors évidemment, les circonstances font qu'ils peuvent gérer, mais voilà, ça semble pas être le joueur fondamental de cette équipe pour l'instant. Nick Chubb a encore été excellent, 18 courses, 106 yards, 5,9 yards par course. C'est du Cleveland. 4 sur 14 en troisième tentative. Est-ce qu'on retient ça comme l'axe de progrès, du coup, maintenant, de cette attaque?
Oui, après cette attaque, je pense que sur les 4 sur 14, il y a beaucoup d'échecs en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu plus propre. Donc, on n'est jamais qu'en première semaine. Et tant que l'attaque progresse au fur et à mesure d'un match, je dirais que ça reste prometteur. C'est-à-dire que t'as le droit de louper ta première mi-temps de la première semaine.
J'ai peur que ce soit pas dingue au niveau des receveurs, mais on en reparlera. Amari Cooper, tout ça, je m'étais un grand convaincu. Amari Cooper, tiens, il est question de son ancienne équipe, puisqu'on va se diriger du côté du match entre les Giants et les Dallas Cowboys. Et là, ça a fait 0-40. On était un soir de finale de l'US Open à New York, donc ils sont mis 0-40. Allez hop, comme ça, 3 balles de break pour les Cowboys d'entrée. 40-0 pour Dallas. Je crois que ce score-là, encore plus que l'autre, quand on le découvrait sans, pour les gens qui arrivaient sur le site ce matin et qui regardaient, ah, 40-0, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'immense douche froide, les Giants ont été atomisés. Ce qui est assez dingue, pour parler tout de suite statistiques, c'est que les Cowboys n'ont gagné que 265 yards dans ce match. Ils n'ont même pas fait un carnage offensif. Dallas bloque un field goal et marque sur le retour de ce bloc de field goal dès la première offensive. Une interception pour un touchdown un peu plus tard. Une interception dans le terrain des Giants pour offrir un ballon à l'attaque en bonne position. Ça fait 26-0 au milieu du second quart. Est-ce que c'est un match complètement raté qu'on met à la poubelle pour les Giants, ou est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette débâcle, Victor?
Bah, la leçon à tirer, c'est que c'est pas parce que t'es à Cendrillon de la saison d'avant que la saison d'après est forcément bonne. Non, après, sur un match, évidemment qu'on va pas tirer des conclusions. Il y a cependant des choses qui font très peur. Et en numéro 1, c'est la ligne offensive. Parce que on peut tomber sur Daniel Jones, hein, qui fait 15 sur 28, 104 yards, 2 interceptions. Enfin, si vous avez regardé le match, j'ai vu les stats derrière. Il est mis sous pression sur 23 de ses 36 snaps. Il est saqué 7 fois. Bah, à un moment, tu peux rien faire quand t'es à ce niveau de pression. Enfin, je veux dire, là, Daniel Jones ou n'importe qui, à un moment, t'es obligé de craquer. Et puis, oui, cette ligne offensive, elle fait très peur parce que, bon, on a le tackle gauche, Andrew Thomas, qui est la star de l'équipe, blessé pendant ce match. On verra ce que ça donne. Evan Neal, l'ancien top 10 de draft, bon, commence à ressembler à un bust absolu. Le rookie, John Michael Schmidt, a pris le bouillon aussi. Je pense que, pour moi, la principale leçon, c'est que si les Giants veulent survivre cette saison, il va vite falloir trouver des solutions sur la ligne offensive.
En effet, tu l'as dit, Daniel Jones s'est retrouvé constamment sous pression. Sur ce match-là, en tout cas, notamment quand on voit le résultat pour Jones, quand on voit la ligne offensive, on a quand même un peu l'impression de revenir un an en arrière et que tout ce qu'on craignait il y a un an qui ne s'est pas réalisé, s'est réalisé là d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a eu leur saison un peu magique de l'an dernier, le nouveau coach, les matchs indécis qui leur tombaient de leur côté à chaque fois, Saquon Barkley qui revit, etc. Et puis là, finalement, bah, tu te retrouves sur le match où il faut plus jouer sur Daniel Jones, où ça se passe pas bien, où il est lâché par la ligne, où du coup, il est intercepté. Les receveurs, le groupe reste quand même plus que suspect à mon sens. Hein. C'était pas Paris Campbell qui allait être sauvé. Sterling Shepard, ça reste du numéro 2. On voit, hein, Darren Waller d'ailleurs est tout de suite utilisé. Il est ciblé 5 fois. C'est pas sans raison. C'est que je pense qu'il est déjà la meilleure cible en fait, rien qu'en arrivant. Donc voilà, ils peuvent. Je reste. Tu dis des progrès sur la ligne. Je pense que du coup, ça va passer par avoir un jeu au sol efficace et pas se faire larguer dans les matchs. Mais un peu ce qu'on disait il y a un an, hein, j'ai l'impression, sur cette équipe de New York. Évidemment, c'est la fin de la première semaine, donc on va pas tirer des conclusions dans tous les sens, ni dans un sens ni dans l'autre. Là, New York est un peu retombé, ça veut pas dire qu'ils reviendront pas à un meilleur niveau dans les semaines à venir, mais c'est vrai qu'on a vu un peu tout ce qui pouvait être inquiétant pour cette équipe sur l'année dernière, qui ne s'est pas matérialisé, qui s'est matérialisé là. En défense, est-ce que, parce que c'était censé aussi être un des points forts de cette équipe, je l'ai dit, finalement, ils prennent pas vraiment un bouillon complet parce qu'ils prennent à peine 256 yards. Est-ce que là, pour le coup, parce que le 40 fait mal visuellement,
ouais,
mais en vrai, comme ils prennent le punt bloqué, ils prennent l'interception, il y a déjà 14 points qui sont pas pour la défense. Est-ce qu'au final, la défense, elle, s'est tenue, Victor?
Ni oui ni non, je dirais que cette défense, elle a pas eu besoin d'être testée, en fait. Les Cowboys, ils ont juste déroulé un peu leur plan de jeu sans prendre de risques. Parce qu'ils étaient devant, ils ont en effet très rapidement eu ces 14 points gratuits, entre guillemets, quand tu es d'attaque, si tu te mets du point de vue d'attaque. Donc ils ont déroulé leur plan de jeu, ça a globalement marché, mais ils n'ont pas eu besoin de faire plus. Donc en fait, cette défense, oui, elle a limité à casse, mais parce qu'elle n'a pas été testée. Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment, sur ce match-là, bah forcément 40-0, mais j'ai pas forcément de points positifs à sortir pour les Giants. Si ce n'est que ce n'est qu'une semaine et qu'on a vu plein de fois des équipes se cagader première semaine et finalement faire une saison correcte. Hein. On parlait il y a quelques temps des Packers qui avaient pris genre 35-3 et qui avaient fini la saison à 14-3. Bon voilà, on verra. Mais Giants, va falloir se remettre la tête à l'endroit parce que sur les 5 prochaines semaines, il y a les Cardinals. Mais après, c'est ce que je te disais hors antenne, il y a Niners, Seahawks, Dolphins, Bills. Il va vite falloir résoudre des problèmes.
Les Cowboys, tu le disais, eux, ils ont déroulé, plutôt tranquille. 30 courses pour 25 passes, donc clairement, une fois que tu as l'avantage comme ça, tu peux gérer. Et quand même, un grand match de Tony Pollard, 14 courses pour 70 yards, 2 touchdowns, 2 réceptions pour 12 yards. C'est bon, on oublie Ezekiel Elliott, là, la star, c'était lui. Hein.
Bah, c'était déjà lui l'année dernière.
C'est vrai.
Franchement, c'était déjà lui l'année dernière. Au niveau d'attaque, voilà ce que j'ai dit, ils n'ont pas forcé, mais ils ont fait le travail. Alors bien sûr, tu en voudrais peut-être un peu plus, etc. Mais est-ce qu'il y avait besoin? Tu sais, l'année dernière, Dak Prescott, il se blesse en semaine 1. Est-ce que tu veux risquer la blessure de Prescott pour marquer 5 points de plus? Bon, il y a un moment, ils ont fait leur boulot, et puis la défense a été étouffante. Étouffante. Enfin, Stephen Gilmore, niveau Defensive Player of the Year, comme il a pu l'être à une époque... Oza Odigizua et Dorance Armstrong qui ont 2 sacs chacun. Enfin, c'est-à-dire les stars comme Parsons ou comme Gilmore ont répondu, et même les joueurs un peu plus méconnus ont joué comme des all-stars. Donc globalement, ce match défensivement de la part des Cowboys, alors bien sûr le zéro il est gonflé par les 2 field goals ratés, mais bon, c'est une performance très solide. Quand t'as une équipe qui est solide en attaque, en défense et en équipe spéciale dès la semaine 1, tu peux te dire que la préparation a été une réussite.
On est sur une émission à thème grosse défense, si je comprends bien. En fait, la réussite là pour Dallas, c'est un peu comme Cleveland, c'est une défense top niveau.
C'est souvent le cas dans les premières semaines de la saison. Ouais. C'est souvent les défenses qui dominent et puis peu à peu, les attaques trouvent un rythme. Donc ouais. je suis pas particulièrement surpris, mais à ce niveau-là quand même, c'est assez impressionnant.
On termine avec les Steelers 7, 49ers 30, j'ai inversé le score, 7-30, donc les 49ers qui s'imposent largement dans ce match. C'était le premier match de la saison sur 6 play d'ailleurs, j'en profite, j'espère que vous avez été nombreux à suivre. Il n'y a pas eu de suspense, les 49ers ont pris le match par le bon bout, domination totale, les Steelers sont recollés à 27 juste avant la mi-temps, on s'est dit qu'il y avait un espoir, finalement non, Christian McCaffrey les a crucifiés juste après la pause. Victor, on a beaucoup parlé de défense, mais là quand même on peut parler attaque parce que les 49ers, je vais pas dire un masterclass, mais ils ont quand même sorti un peu ce qu'ils voulaient face à une très forte défense de Pittsburgh. Évidemment, il y a eu un bon passage quand même où la défense de Pittsburgh les a limités à des field goals et où ça a été un peu plus dur, mais on a vu du très bon Christian McCaffrey. Et avant lui, moi j'ai envie surtout de parler de Brandon Ayuk, 8 réceptions, 129 yards de touchdown. Ça peut être le petit plus de San Francisco cette année, Brandon Ayuk.
Ah, complètement. Moi, j'adhère au masterclass, même si c'est un anglicisme, hein, mon cher Alain.
Celui-là, il est courant, il est pas lié au football américain. Je vous dis parce qu'on a des débats anglicisme dans la rédaction. C'est pour ça, en ce moment, savoir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas.
Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est moi qui ai passé mon été à dire que les Niners pouvaient revenir en arrière. Bah, pour l'instant, je suis servi. Ayuk a été excellent, et en fait il a été excellent sur toutes les phases de jeu, c'est-à-dire excellent receveur, excellent bloqueur aussi. Il a été précieux dans l'intégralité du match, et c'est vrai qu'il y avait des débats l'année dernière, qui est le receveur numéro 1, est-ce que c'est Ayuk, est-ce que c'est Deebo Samuel. Ça commence de plus en plus à ressembler à Ayuk. Christian McCaffrey a déroulé comme il sait le faire, et Brock Purdy a fait le boulot, là encore très intelligent, c'est-à-dire que il va pas prendre de risque, il va lancer sur un mec qui est ouvert. Alors les stats sont belles, hein, mais c'était pas non plus des passes extrêmement difficiles, sauf il y a un touchdown qui est particulièrement sympa. Bah, mais
celui, il y en a un sur Ayuk en effet, ouais, voilà. Qui est merveilleusement bien placé.
Mais sinon après, enfin, je veux dire, tu peux pas le reprocher à Purdy, c'est-à-dire pourquoi prendre des risques quand tu peux ne pas en prendre. Bon, voilà, il a fait son match de bon père de famille, comme on dit. Et ils avaient, là encore, c'est un peu la logique Dallas. Au bout de deux cartons, ils avaient pas besoin d'en faire beaucoup plus. Donc, y a un moment, tu gères ton match et puis tu prends ta victoire en première semaine.
Franchement, j'ai été impressionné par Ayuk parce que il a 8 réceptions en étant ciblé 8 fois. Il y a ce touchdown magnifique. Et c'est vrai qu'au fil du match, on se dit, ah bah tiens, c'est vrai, quand Deebo Samuel capte un ballon, ah c'est vrai que Samuel est là, mais oui, Ayuk était en train, en tout cas sur ce match-là, a pris le dessus, et lui comme Samuel d'ailleurs, hein, c'est vraiment des receveurs un peu costauds, tu le disais, sur les blocs, il dégage le passage, sur le touchdown de McCaffrey, je crois d'ailleurs que Ayuk pose un gros bloc, voilà, ils ont cette dimension très physique en plus, ils peuvent capter des ballons courts et les transformer en gros gains, parce que t'as l'impression qu'ils se transforment quasiment en running back les deux, une fois qu'ils ont le ballon, mais en même temps, ils peuvent aussi aller capter des trucs incroyables dans la end zone. Donc, franchement, je trouve qu'il a apporté une nouvelle dimension. Tu l'as dit, Christian McCaffrey, 22 courses, 152 yards, un touchdown. Il a une course de 65 yards pour un touchdown qui tue le match, hein, de facto dans le troisième quart-temps. Ça a été vraiment impressionnant. Et Brock Purdy, je reviens sur lui parce que tu l'as mentionné, 19 sur 29, 220 yards, 2 touchdowns. C'était vraiment le meneur de jeu. Qui fait tous les bons choix, qui va chercher le petit touchdown à la course là pour le petit first down pardon à la course pour tuer le match en fin de partie. Est-ce que je m'emballe si je dis, je trouve ça me rappelait un peu du Russell Wilson début de carrière, tu sais, où il était bien entouré à Seattle et où on avait toujours cette impression qu'il faisait les bons choix, il faisait pas des trucs incroyables mais on lui demandait de faire des trucs et il faisait les bons choix.
Moi je trouve que ça rappelle vraiment le pragmatisme de Tom Brady du premier triplé, tu sais, là où il est pas la star de l'équipe.
Oui. Alors,
mais c'est peut-être un peu trop vieux pour la plupart des gens qui l'ont pas connu.
Non, ça m'y fait penser aussi, mais c'est juste que j'ai toujours peur de manier la comparaison Brady. Tu vois, c'est un peu la nitroglycérine, parce qu'après on va.
Oui, mais il faut.
Je te dis ça parce que on l'a fait à l'antenne sur Sisplay. Véridique, on a dit. Greg, tu penses pas quand même qu'il rappelle un peu le Tom Brady début de carrière et tout? Et pile à ce moment-là, sac, fumble perdu.
Oui, ça c'est le seul point noir. Il a 2 fumbles dont un perdu. Mais parce que des gens, les plus jeunes ne s'en rappelleront pas, mais les 3 premiers titres de Brady, le Brady de début de carrière, bon, c'est un game manager, mais c'est loin d'être la star de l'équipe. Donc, ouais.
Mais t'as raison, en un sens, c'est ça, c'est vraiment le mec bien entouré, grosse défense, il y a du jeu au sol autour, mais qui fait toujours les bons choix.
Ouais, c'est ça. Globalement, pour l'instant, rien à dire. On verra dans les matchs où il est un peu plus en difficulté. Mais en tout cas, sur la saison régulière, c'est le genre de joueur, si le système tourne toujours aussi bien, ça se passera bien. Ouais.
Il a bien bougé dans la poche. C'était extrêmement décevant de l'autre côté pour Pittsburgh. Ils avaient fait une super pré-saison. Moi, j'avoue que je m'étais un peu ambiancé. C'est toujours une leçon à retenir. Vous voyez, c'est la beauté de la NFL. Ça fait 13 ans. Attends, le site est de 2007, 2008, je crois. 2007, la saison, la première. Le podcast 2011. Et je suis toujours bêtement en train de faire « Ouais, ils ont fait une belle pré-saison. Je pense que c'est prometteur. » Mais non, la pré-saison, ça veut rien dire. L'important, le seul enjeu de la pré-saison, c'est de ne pas se blesser. Parce que là, les Steelers arrivent. Et moi, bêtement, je dis « 5 séries offensives avec les titulaires, 5 touchdowns. Vraiment, ils doivent être chauds. » Et ils se sont fait massacré. Kenny Pickett avait quand même l'air parfois un peu perdu. Il termine à 31 sur 46, 232 yards, un touchdown, deux interceptions. Il y a des passes sous-dosées, il y a des passes qui sont pas dans le timing. Est-ce qu'on met... alors oui, Nick Bosa est en forme. Oui, il y a une très bonne défense en face. Oui, il y a de la pression. Il prend 5 sacs. Alors ça s'accumule beaucoup en fin de match. Hein. Il lâche quand même un peu sur la fin de match. Mais on met ça sur le compte de Matt Canada, le coordinateur offensif, ou est-ce qu'il y a un problème plus large que ça?
Il y a un problème Matt Canada, mais ça, on ne découvre pas. Et c'est peut-être l'erreur historique des Steelers d'avoir gardé.
Il y a un autre truc qui me paraît historique, c'est la ligne offensive, parce qu'on dit souvent telle équipe a toujours une bonne ligne, quels que soient les mecs qui tournent. Là, la ligne est continue de...
Ouais, ça fait quelques années, oui.
D'être compliqué, hein.
Non, globalement, moi, j'étais dans la hype Steelers absolument, et ça a fait pchit, quoi. C'est sûr que...
Ah ouais.
C'est sûr que là, on a vu un Pickett sans inspiration, une ligne qui a pris le bouillon, des receveurs qui n'ont pas su faire la différence.
Je les voyais pas gagner, mais je pensais qu'ils poseraient un peu un défi aux 49ers, tu vois, qu'ils les embêteraient un peu plus longtemps que ça. Là, dans le début de match, ils ont tout de suite pris cher. Ils s'en sont jamais remis. Ils ont jamais pu mettre en place de jeu au sol. Najee Harris, c'est un peu le même schéma que l'an dernier. Alors, il a une grosse course qui le sauve, hein, mais j'ai l'impression que déjà l'an dernier, on lui mettait 400 ballons dans les mains. À chaque fois, il avançait 2 yards. Donc, à la fin, on a l'impression que ça fait beaucoup de yards, mais il y a un truc quand même qui est poussif, moi je trouve, chez Harris. Donc pareil, est-ce que c'est une question de schéma pour on n'arrive pas à faire briller ce joueur-là?
Moi, Najee Harris, j'étais très bas sur lui à la draft. Hein, donc je trouve qu'il fait juste ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire le Jérôme Bettis du pauvre, si tu veux.
Ah oui, donc là, on revient sur de la référence très très ancienne, Jérôme Bettis, hein, parce que c'est début des années 2000.
On appelait le bus.
Ouais, pour le coup, c'est un plus gros tank, hein, quand même.
Ah oui, ça c'est sûr.
Mais Najee Harris qui a que 4 matchs à plus de 100 yards en 2 saisons. Donc c'est vrai que pour un joueur choisi au premier tour de la draft, c'est pas tout à fait ce qu'on attend en théorie.
Non.
Donc c'est vrai que c'est problématique à ce niveau-là, mais on le disait, il y a un ensemble de tout. Pour Kenny Pickett, est-ce que c'est inquiétant? Il avait fait un début de saison difficile l'an dernier pour son année rookie, ça avait progressé un petit peu par la suite. Là, encore une fois, bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Évidemment, c'est que la première semaine, c'est les 49ers en face, mais c'est inquiétant. C'était dur en tout cas pour une reprise. Hein.
Oui, oui.
Et c'est vrai qu'il faut rajouter, George Pickens est aussi irrégulier.
Rien n'a été. T'as que des joueurs qui ont sous-performé, en fait.
La seule, on va terminer avec ça. Alors, la seule petite satisfaction, c'est TJ Watt. 3 sacs, un fumble provoqué, un fumble recouvert, qui est le même fumble, évidemment. Ça reste un incroyable joueur, ça reste l'âme de cette défense. Il y a peu de choses à dire, j'ai même pas une question très... très précise à te poser là-dessus, mais bon, c'est juste la minute d'appréciation.
Non, mais t'as raison, c'est l'âme de cette équipe, c'est un joueur extraordinaire. Je veux dire, c'est incroyable que deux frères soient autant que les deux marquent autant de leur carrière à la NFL. C'est l'ère de TJ Watt et il a déjà mis une première pierre sur un nouveau titre de défenseur de l'année. Alors évidemment, on verra bien, mais pour l'instant, en tout cas, c'est bien parti.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de défense dans cette émission. Honnêtement, ça a été un beau match de défense, si vous appréciez, parce qu'en vrai, TJ Watt a été superbe. En face, Fred Warner, Dre Greenlaw ont régalé aussi.
Il y a Drake Jackson qui fait 3 sacs aussi, le edge aussi, de USC. Ouais. Enfin, c'est vrai. L'ancien de USC, qui est un joueur qui arrive à maturité, qui est arrivé en fait très talentueux, mais très brut en NFL. Et je suis pas étonné qu'il arrive à maturité que maintenant, à confirmer, mais bel ajout aussi.
Ouais, ouais. Mais vraiment, je te dis, Warner et Greenlaw aussi ont régalé. Ils étaient partout. On a eu un petit aperçu aussi de Javon Hargrave, l'ancien Eagles, qui a réussi un sac aussi. Enfin, voilà, Nick Bosa a pas de sac, mais il a été présent aussi. Il a eu à peine une semaine d'entraînement, même pas. Il était partout. Donc pour le coup, celui-là, c'était un match de défense. Hein. Les stars, c'était pas les quarterbacks, même si ça, évidemment, ça a très bien joué en attaque côté San Francisco, mais c'était un très beau match de défense. Pour le coup, Talanoa Ofanga aussi s'est fait remarquer à plusieurs reprises. Franchement, de ce côté-là, il y avait des trucs sympas à se mettre sous la dent. 30-7, donc, les San Francisco 49ers, et on boucle comme ça notre débrief des trois plus grosses affiches. On se retrouve demain pour débriefer tout le reste de la première semaine, et il y a eu encore des surprises. Il y aura encore plein de choses à dire. Tampa a gagné, les Rams sont gagnés, les Jaguars s'en sont sortis aux fiches, et les Rams sont gagnés, les Raiders sont gagnés. On a fait des débats pendant
qui
le Power Ranking.
Qui était le pire entre l'un et l'autre.
Qui était le pire entre les Rams et les Raiders? Eh ben, c'est deux équipes qui ont déjà une victoire. Les Packers ont gagné avec Jordan Love, donc il s'est passé plein de trucs. Il y a du gros Tyreek Hill, du gros Tua Tagovailoa. Vous allez voir, on a plein de choses à dire. Et sans parler du fait que, au moment où on enregistre, on vous le dit, le Bills Jets n'est pas joué. Donc, on va aussi parler du Bills Jets dans l'émission que vous allez écouter mercredi matin. Donc là, il nous reste encore du très très lourd pour cette première semaine de NFL. Merci beaucoup, Victor.
Merci Alain, merci à tous.
Et merci encore une fois à vous, tdactu.com, pour nous suivre. Vous avez tous les réseaux là-dessus. Et vous avez aussi le Tipeee pour nous suivre. Vous avez un lien Tipeee quand vous scrollez dans le site. Et on a toujours... Dépêchez-vous, les calendriers, au moment où on enregistre, il n'en reste plus que 3. Et je remercie Sébastien qui gère les envois et tout, qui gère l'inventaire. Il m'a dit, il n'en reste plus que 3. Donc, dépêchez-vous. Merci encore, Victor. À très vite sur les antennes de TD Actu. Ciao, ciao et bonne saison NFL. Je le dis encore une fois, mais là c'est la reprise, c'est vraiment cool. On a eu des matchs.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.